inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 18.
Le chaos pour Horizon.
Pour les soldats, la guerre c'est d'abord la pluie et la boue des tranchées. Pataugeant dans cette glaise, Achille Philippot a, le 25 juin 1915, des réminiscences de la tirade de flambeaux dans l'Aiglon d'Edmond Rostand, pièce créée à Paris en 1900. Il a conscience de faire partie des obscurs, des sans-grades de la Grande Armée.
Nous partons. Les boyaux ne forment plus qu'une nappe d'eau de 15 cm environ. Par endroits, cette eau s'est transformée en bouillie épaisse, comme de la pâte à pain. En passant, malgré les obus qui tombent, je ne peux m'empêcher de rire, car je pense à Flambeau, dans l'Aiglon, qui dit que par place, il était obligé de tirer ses jambes l'une après l'autre comme des carottes. Nous étions logés à peu près à la même enseigne.
Edmond Rostand fait en effet dire ceci à son grognard. Nous qui, pour arracher ainsi que des carottes, nos jambes à la boue énorme des chemins, devions les empoigner quelquefois à deux mains. Gabriel Degoy, sergent sapeur au 60e régiment d'infanterie, dans la Marne, ne raconte pas autre chose.
Vendredi 13 avril 1917. Je viens d'apprendre que l'attaque est fixée à dimanche matin. Je ne comprends rien à cette offensive, car notre artillerie ne fait pas un tir continu de démolition sur les tranchées allemandes, tant s'en faut. Le temps est beau, pourvu qu'il fasse ce temps-là dimanche. Je monte en ligne à 3 heures pour poser des pancartes indicatrices aux places d'armes des compagnies. Dans certains boyaux, il y a 40 cm de boue, à peine si l'on peut marcher et se sortir de ce bourbier. De plus, c'est un véritable chaos de matériel. Tout est retourné, bouleversé, des amas de fils de fer et de piquets gisent pêle-mêle. Les obus et les torpilles tombent là-dedans, faisant un fouillis inextricable.
Les villes et les villages sont eux-mêmes parfois des champs de bataille. Le 4 juin 1915, le sergent Achille Philippot visite les maisons dévastées d'un village de l'Artois, dans lequel il vient de passer la nuit.
Ce matin, j'ai pu visiter un peu les maisons en ruine. C'est effrayant de voir ça. Pas une seule qui ne soit pas atteinte. Les plafonds, les toits crevés. Les fenêtres, les portes sont arrachées, brisées, plus rien ne tient debout. Dans une cour, une lessiveuse qui a resté là, dans un coin, un fourneau. Sur le grenier gisent des robes que la maîtresse ne put emporter. À côté d'un bois de lit se trouve une suspension en cuivre, toute neuve, avec son globe intact. Comme c'est bizarre. Tout est mutilé, émietté, et ce globe ne fut pas touché. Dans la cour, le jardin, des trous immenses ont été creusés par les obus. Ce matin, 2 sections de ma compagnie sont parties occuper les tranchées, les 2 autres sont toujours à Carency.
Bélorget, capitaine d'artillerie né vers 1870, décrit la ville de Verdun telle qu'il l'a vue le 15 octobre 1916.
Chaque jour, mon service m'appelle à Verdun. Notre artillerie est déchaînée, mais l'ennemi lui répond. Tout saute, s'effrite, s'écroule, les marmites s'écrasent contre la citadelle, font jaillir des geysers de la Meuse, éventrent les maisons, offrant au regard l'intimité de leurs intérieurs, pauvres ou riches. Pauvre rue Mazel, je verrai toute ma vie les vieilles maisons aux noires blessures résister, s'arc-bouter les unes aux autres, puis se pencher et, sous un dernier obus, s'accroupir, mortes, dans un formidable écroulement de pierres, de gravats, de meubles fracassés.